Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour notre émission. Nous sommes déjà le 3 janvier 2025 et oui, l'année 2025 a déjà commencé et je vous souhaite bien sûr tout d'abord une très belle année 2025, que tous vos souhaits, tous vos vœux soit réalisé pendant cette année et que vous passiez une année paisible et joyeuse. Voilà pour commencer cette émission. Et pour la continuer, eh bien, je vous propose de revenir sur l'année 2024 un tout petit peu en prenant le texte qui avait été mis en avant pendant toute cette année 2024 par la Fédération protestante de France. Il s'agit d'un verset. Prenez soin les uns des autres. Ce verset se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 12, entre les versets 20 à 27. Il est question donc de prendre soin. Et cette thématique, je vous propose de la développer grâce à deux interviews réalisées par la Fédération protestante de France, par Benjamin Beuriès, qui s'occupe des actualités protestantes c'est le magazine d'information donc de la FPF, qui chaque mois propose une émission et nous la donne pour qu'elle soit aussi utilisée. Je vais en prendre seulement une partie. Tout d'abord, une méditation par Stéphane Lavignotte, pasteur à la Mission populaire évangélique de France, qu'il sera donc interrogé par Benjamin Beuriès. Et puis, deuxième interview avec Pierre Olivier Dolino, qui est le délégué général de la Fédération de l'entraide protestante. Tous les deux, ces deux pasteurs, vont bien sûr développer ce thème de prendre soin les uns des autres. Mais avant de les écouter, je vous propose un moment musical avec le deuxième mouvement de l'hiver de Vivaldi. Et puis, nous le retrouverons d'ailleurs après les 12 interviews réalisées par Benjamin Beuriès. Je vous souhaite une bonne écoute et nous nous retrouvons juste après pour la fin de cette émission. Thank you.
Tout de suite dans Méditation, Stéphane Lavignotte, pasteur à la Mission populaire évangélique de France, met en perspective la question du prendre soin avec l'écologie. Une autre approche tout aussi pertinente pour vivre un engagement pour la vie et pour les autres. Méditation. Prenez soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, versets 20 à 27. Stéphane Lavignotte, bonjour.
Bonjour.
Alors, on l'a entendu juste avant, prenez soin les uns des autres. Comment cette parole résonne en vous ?
Pour moi, elle résonne beaucoup sur la dimension « les autres ». Le texte de Paul, comme beaucoup des textes qui parlent de ces premières communautés, c'est des communautés qui sont petites, un peu isolées, en difficulté, donc qui sont un peu repliées sur elles-mêmes. Elles sont extrêmement fraternelles, mais uniquement pour les gens très proches. Et depuis le christianisme et tout ce qu'on voit dans le protestantisme avec les aumôneries, les structures sociales comme la mission populaire, les structures sanitaires et sociales, ont bien sûr élargi très largement ce les autres. Donc c'est un prochain qui en fait est un lointain. Et dans les questions écologiques, on l'élargit encore, c'est-à-dire que les autres, ben, c'est aussi non seulement les humains, mais ce que les écologistes appellent les êtres vivants non humains. Et donc, c'est penser un arbre, une plante, un oiseau, un animal, aussi comme un prochain, comme un les autres, dont il faut aussi prendre soin.
Pourquoi on a besoin de se rappeler cette parole aussi régulièrement, prenez soin les uns des autres ?
On est encombré en permanence par pas mal d'objets, pas mal de soucis, pas mal de travail, et on doit avoir des occasions de faire de la place. Et faire de la place, c'est justement une occasion de faire de la place aux autres, faire de la place à ce qui sans doute doit être important, donc pour se recentrer sur cet important. Et là, on s'aperçoit que beaucoup plus que les objets, c'est la relation qui, dans ces cas-là, est importante. Il y a dans l'écologie cette idée que moins de biens et plus de liens. Ben voilà, peut-être que se rappeler, prendre soin les uns des autres, ça peut être ça.
Alors, est-ce que se prendre soin de la Terre, de la création, ça fait aussi partie de se prendre soin des autres ? Vous avez déjà un peu répondu, je crois, en début de l'entretien.
Oui, parce que à la fois les autres, c'est la Terre, c'est les êtres vivants non humains, mais aussi dans la crise écologique, les autres les plus éloignés, notamment les plus en difficulté, les moins riches, les gens qui sont dans les pays du Sud, sont en première ligne de la crise écologique. Donc c'est d'abord à eux et à elles qu'il faut penser, dont il faut se soucier. Et inversement, sans doute, une partie de la solution passe en mettant au centre des transitions écologiques les personnes les plus en difficulté. On réduira énormément nos productions de CO2 si on isole les HLM qui sont actuellement des passoires thermiques. On améliorera énormément le niveau d'émissions de CO2 de l'agriculture si les plus en difficulté ont accès à une agriculture bio qui produit le moins de CO2. Donc c'est à la fois un souci et sans doute aussi une partie de la solution.
C'est toujours assez lié, la question de la justice sociale et la question du prendre soin de la terre ou de la conscience écologique.
En tout cas, les églises ont fait le lien là-dessus très très tôt. Quand on voit le souci du conseil œcuménique des églises dès les années 60-70, c'est présent. Là, c'était très présent dans le texte du pape Laudato Si, et c'est pour ça que en milieu catholique, il y a ce lien permanent qui est fait par exemple entre le cri des pauvres et le cri de la terre. Et donc là, le travail œcuménique, pour nous protestants, il a un terrain qui est particulièrement riche.
C'était Méditation avec Stéphane Lavignotte, pasteur à la Mission populaire évangélique de France. Pour en savoir plus, rendez-vous sur missionpopulaire.org. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Pierre-Olivier Dolino, pasteur de l'Église protestante Unie de France et délégué général de la Fédération de l'entraide protestante. Bonjour.
Bonjour.
La solidarité s'est arrivée très très tôt dans votre parcours. Après vos études de théologie, vous êtes rapidement engagé dans la mission populaire, donc dans des œuvres sociales. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce que vous êtes né comme ça ?
Alors le déclic, historiquement, je le rattache à l'expérience que j'ai pu faire avec, grâce à l'Armée du Salut lorsque j'étais au catéchisme. Le pasteur qui nous accompagnait nous avait proposé d'aller faire des maraudes avec l'Armée du Salut. Et donc ça a été, je devais être jeune collégien peut-être, ou peut-être même en primaire, je ne me rappelle plus exactement à quelle année c'était. Mais voilà, le premier contact avec la très grande pauvreté. Nous, on était là essentiellement pour discuter, échanger. Et donc, au-delà justement de la pauvreté et de la chose que l'on donnait, très vite sensibilisé au fait que c'était déjà le regard, l'échange dont les gens avaient le plus besoin. Et je crois que ça a nourri mon engagement. Puisqu'avant de vouloir être pasteur, je voulais déjà travailler dans l'humanitaire. Donc ça, voilà, ça a nourri. Et puis quand j'ai eu cet appel à devenir pasteur, j'ai fait les études de théologie. Et effectivement, j'ai découvert pendant mes études de théologie la mission populaire évangélique et son engagement dans les quartiers. Et quelque part, ça a été la suite d'une manière pour moi de concilier à la fois un appel évangélique et un appel à l'engagement social et même politique. Et donc du coup c'était une continuité tout à fait normale pour moi que cet engagement à la mission populaire qui a duré pendant 22 ans.
Et donc vous avez été dans différents centres de la mission populaire qu'on appelle les fraternités.
C'est ça.
À Lyon, à Paris, à Marseille.
J'ai commencé à Paris, au Picoulet, dans le 11e arrondissement, sur la direction d'un centre social, donc maison de quartier, avec une équipe de salariés, une centaine de bénévoles, où l'idée était de trouver ensemble avec les habitants du quartier les moyens de faire mieux vivre ce quartier, qui avait pas mal de défis aussi, notamment de mixité de population. On était déjà un peu dans la gentrification de Paris. Donc comment on fait vivre ensemble des personnes étrangères, des personnes en très grande précarité, avec des personnes qui ont plus de moyens financiers et qui arrivent aussi sur ces quartiers-là. Donc voilà, comment on arrive à créer du lien social, c'était tout l'enjeu. Ensuite, après, j'ai été à la Duchère, à Lyon, un quartier de grands immeubles, avec un vrai défi autour de cette fois-ci de l'interreligieux. D'abord de la rénovation urbaine, c'était tout l'enjeu de ces quartiers qu'on voulait faire changer avec le symbole de ces bars qu'on voulait détruire, auquel de manière assez étonnante les habitants en fait sont très attachés. Voilà, ils savent que leurs quartiers sont difficiles et ils sont les premiers à dénoncer la pauvreté, le manque d'équipement, mais en même temps ils ont envie de transformer leur quartier et pas d'en être éjectés. Et ces grandes rénovations ont laissé souvent beaucoup de traces pour les habitants, c'était difficile, donc il fallait accompagner cette transformation. Et puis c'était un quartier où c'était mélangé, parce que c'est un quartier qui est né dans les années 60 et qui a ouvert ses portes juste après la guerre d'Algérie à la population rapatriée d'Algérie et notamment au Pied Noir et à la communauté juive. Donc il y avait une communauté chrétienne, il y avait une communauté juive et puis ensuite une communauté musulmane qui arrivait. Donc il y avait un très fort engagement autour des questions interreligieuses. Donc on a vécu des moments vraiment passionnants de rencontres interreligieuses avec vos collègues de différentes radio avec qui on a beaucoup travaillé sur ces années-là. C'était très 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 riche. Et puis j'ai eu la chance de poursuivre à Marseille, dans un quartier aussi marqué par de très fortes pauvretés, un quartier dans lequel il n'y a pas de logement social. Donc c'est du logement très dégradé où en fait les personnes qui arrivent en France échouent, j'allais dire quasiment, dans ce quartier-là, parce que c'est le seul endroit où on peut arriver à trouver à des loyers parfois délirants, mais à possibilité d'être hébergé ou de se loger. Et pour vous donner un exemple, le parcours résidentiel, l'espérance de ces personnes, c'était une fois qu'elles avaient un peu stabilisé leur situation, avaient pu obtenir leurs papiers, commencer à travailler, c'était d'obtenir un logement social dans les quartiers nord. Donc, voilà, nous qui avons l'image souvent de ces quartiers nord qui sont difficiles, ce qui est une réalité, même si en fait elle est beaucoup plus composite. Et en fait les quartiers nord, c'est une myriade à la fois de villages, de centres villageois et de quartiers populaires. Mais il n'empêche que voilà, pour les gens du quartier, c'était d'obtenir un logement social dans le quartier nord, c'était déjà une manière de s'élever par rapport à ce qu'ils vivaient. Donc c'est vrai que ça a été très très compliqué, mais on a fait un travail là aussi avec une équipe autour de l'enfance jeunesse, beaucoup d'activités enfance jeunesse, et puis tout ce qui était l'accompagnement social, l'aide aux démarches administratives, voilà, dans ce dans ce labyrinthe, dans ce dédale de l'action de l'administration. On n'est pas obligé d'être phobique comme certains du social pour en fait s'y perdre. Et donc là, on essayait d'accompagner avec des écrivains publics, avec des cours de français, avec de l'informatique, les gens dans leur démarche administrative.
Qu'est-ce que ce parcours dans ces différents postes vous a appris ?
Il m'a appris qu'il n'y avait pas de fatalité, c'était aussi un des slogans de la mission populaire, que la solidarité fonctionne dans ces quartiers-là. Moi, j'aimais beaucoup dire que c'était des quartiers sensibles. Alors, on parle souvent des quartiers sensibles en parlant de la sensibilité à la pauvreté, mais c'est aussi des quartiers sensibles parce qu'il y a une vraie richesse, un vrai engagement. C'est des quartiers aussi dans lesquels les habitants sont souvent... Et la vie associative est très forte. Les habitants sont très engagés. Il y a bien sûr une grande richesse d'une diversité culturelle, religieuse, j'en parlais juste à l'instant. Que malgré la pauvreté, il peut se vivre de très belles choses. Et que face à cette pauvreté, face aux injustices, il n'y a qu'une seule solution pour s'en sortir, c'est le collectif.
Alors en janvier 2024, donc changement de cap pour vous. Vous devenez délégué général de la Fédération de l'entraide protestante. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous décrire la Fédération de l'entraide protestante et votre poste ?
Oui, alors la Fédération de l'entraide protestante rassemble les 370 associations qui travaillent dans le social, le médico-social ou le sanitaire en France. Ça va d'associations de quartiers fonctionnant essentiellement avec des bénévoles comme les entraides liées aux paroisses ou à des petites associations de quartiers jusqu'à des très grosses associations qui ont plusieurs milliers, plusieurs centaines, voire de milliers de salariés. L'Armée du Salut, le Diaconesse de Reuilly, la Fondation de John Bost, voilà, il y a pas mal de grandes fondations comme ça, parfois connues, parfois moins connues, qui interviennent dans beaucoup de champs. L'histoire sociale protestante est très très riche, on connaît quelques grandes figures d'hommes ou de femmes qui ont marqué depuis le 16e siècle, mais notamment au 18e, 19e siècle, le travail social en France. Hein, on a été précurseurs dans bien des domaines. Aujourd'hui, on travaille essentiellement dans le domaine de l'enfance jeunesse, sur les questions de précarité, de pauvreté, sur les questions personnes âgées, accompagnement vers l'autonomie, perte d'autonomie, pardon, les questions du handicap, donc la question de l'autonomie et du handicap, les questions de l'accueil de l'étranger et les questions de santé essentiellement.
Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce poste de délégué général et en quoi il consiste ?
Bon, je crois qu'après 22 ans à la mission populaire, j'avais envie de me renouveler, de changer. Et puis je disais, à la fois de changer d'échelle, mais aussi quand on est ancré dans le travail, dans l'action, on rêve toujours d'avoir le temps de pouvoir pas simplement répondre aux besoins des personnes, mais de travailler un petit peu en amont et d'essayer de résoudre les causes, d'avoir une action qui fait changer la société pour éviter qu'on se retrouve à devoir... pas simplement mettre des pansements, mais travailler en amont pour éviter les blessures. Donc ça, c'est un peu toujours le rêve. On essaye de le faire. On essaye de le faire notamment en travaillant justement en réseau les uns avec les autres et en travaillant dans ces fédérations. Et quelque part, j'avais un peu cette envie de prendre le temps de pouvoir réfléchir avec l'ensemble des adhérents à quels étaient les enjeux de notre société et comment on pouvait expérimenter, peut-être développer des actions nouvelles, innovantes pour répondre aux besoins, mais aussi réfléchir ensemble aux transformations structurelles, aux évolutions législatives, par exemple, qu'il faudrait pour changer, faire changer et éviter de se retrouver toujours dans les mêmes difficultés.
Donc, quelque chose aussi de l'ordre du lobbying pour influencer finalement les politiques sociales.
Oui, tout à fait. Alors, nous, on parle de plaidoyer plutôt, hein, mais c'est ça, c'est de l'ordre du plaidoyer, de la construction ensemble, de l'expérimentation aussi, que l'on peut mener, nous, évidemment toujours avec les adhérents, avec les associations membres de la fédération, pour voir justement expérimenter qu'est-ce qui peut fonctionner, et puis après le proposer pour en faire des véritables politiques publiques pour demain.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de protestant à la Fédération de l'entraide protestante ?
Alors, ce qui regroupe les associations, c'est cet ADN, cette histoire. C'est leur, on a bien parlé d'enracinement, leur enracinement dans cette histoire protestante, mais pas simplement tournée vers un passé. Mais plutôt comme une vision qui porte. On sait qu'aujourd'hui, on a un vrai défi autour de l'attractivité des métiers. On sait que la question de l'engagement se joue, que ce soit pour les bénévoles ou pour les salariés, autour de la question du sens. Voilà, aujourd'hui, on ne s'investit pas simplement dans une association parce qu'on l'a toujours été, parce que ses parents l'étaient, mais parce qu'on est persuadé de la pertinence de l'action et puis parce qu'on y retrouve, on y trouve du sens. Et je crois que le protestantisme est un réservoir de sens parce qu'elle propose un engagement pour tous, un sacerdoce universel de l'engagement, j'allais dire, parce qu'elle propose une parole de liberté qui rejoint chacun dans sa singularité, que chacun est accueilli et entendu tel qu'il est. Et je crois qu'effectivement, ça marque réellement la manière dont ces associations fonctionnent, jusqu'au management, la manière dont elles organisent le travail des équipes. On essaye d'être souvent dans des modèles assez horizontaux, beaucoup plus que pyramidales ou très hiérarchiques. Je crois qu'on est réellement dans ces associations-là ouvertes aux questions de sens. Donc voilà, donc c'est des sujets qu'on travaille, l'identité protestante. Et au-delà de ça, la question de la dimension spirituelle. Comment on prend en compte la spiritualité de chacun? Comment on va à la rencontre de la spiritualité, que ce soit des croyants ou des non-croyants? Et comment on fait dialoguer avec nos convictions, qui sont celles de l'Évangile, avec celles de nos contemporains, qu'elles soient juives, musulmanes, athées ou d'autres convictions?
Alors pour finir cette interview, est-ce que vous avez des projets à partager ou une information en particulier au sujet de la Fédération de l'entraide protestante, de quelque chose qui arriverait prochainement?
Alors il y a plein de choses qui vont arriver prochainement puisque on travaille à la fois au niveau des régions à faire rencontrer les adhérents entre eux, puis on travaille au niveau national dans des cercles thématiques dont je parlais tout à l'heure autour pour faire se rencontrer les gens et faire ce travail de réflexion, d'expérimentation et de plaidoyer ensemble. Donc là, chacun de ces cercles organise des rencontres et il va y avoir de très belles rencontres prévues. Et puis, ce travail, j'en parlais au niveau français, mais en fait, aujourd'hui, il faut aussi le penser de manière européenne. Et c'est la France, en 2025, et donc la Fédération d'entraide protestante, qui accueille le réseau des fédérations protestantes d'entraide l'année prochaine, en 2025. Donc, on peut déjà se donner rendez-vous à Paris en 2025, en avril prochain, pour l'accueil de Eurodiaconia qui aura lieu en France.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus 103.2. Vous nous écoutez en DAB+, ou bien sur notre site internet radioallianceplus.fr par l'intermédiaire de nos podcasts. Vous venez d'entendre une musique de Vivaldi, L'hiver de Vivaldi, et avant cela, deux interviews réalisées par Benjamin Boriest dans le cadre du magazine d'information de la Fédération protestante de France. Et il nous a proposé l'interview de Stéphane Lavignotte, pasteur à la Mission populaire évangélique de France, ainsi que celle de Pierre-Olivier Dolineau, délégué général de la Fédération de l'entraide protestante. Ces deux pasteurs ont développé pour nous ce thème de « Prenez soin les uns des autres » qui était le verset et la thématique de l'année 2024 qui s'est terminée il y a peu, quelques jours, mais nous pouvons reprendre cette thématique tout au long de l'année encore, car il y a beaucoup à faire pour prendre soin les uns des autres. Donc, quelques exemples par ces deux pasteurs, deux façons de prendre soin. Et nous souhaitons aussi pour cette année 2025, que vous preniez soin de vous aussi et que vous passiez une très bonne année 2025, comme je vous l'ai dit au début de cette émission. Et c'est au nom de la radio, Radio Alliance Plus, par l'intermédiaire du conseil d'administration que je représente maintenant, que je vous souhaite donc cette belle année 2025, et nous nous réjouissons de continuer nos émissions pour vous pendant toute cette année 2025. À bientôt, chers amis, chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus. À la semaine prochaine.